France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Photographe, plasticien, performeur, il expose ses clichés mystérieux à la caméra infrarouge, en ce moment à la galerie Leica à Paris. Smith sera mon invité à partir de 13h. Et tout de suite, on critique aujourd'hui deux mangas qui nous font voyager dans l'espace et dans le temps. La nouvelle édition de Sorcières de Daisuke Igarashi, publiée chez Delcourt, et Tamaki et Aman de Fumi Yoshinaga, sorti chez Soleil. Vous écoutez les midis de culture et j'apprécie beaucoup ce geste. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Fausto Fasulo, fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du Festival d'Angoulême.
Bonjour.
Bonjour. Pauline Croquet, journaliste au Monde. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Je suis vêtue de robe noire. Je ne peux vivre que le soir. J'ai les ongles longs en hiver. Et je fais peur. Je suis sorcière. Mais j'ai cassé tous mes alambics. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi.
Les vrais savent, vous avez peut-être reconnu Françoise Hardy dans Émilie Jolie en 79, ça date. Si vous vous attendez à des sorcières de contes de fées, de contes tout court, vous ne trouverez pas votre compte dans ce premier tome de Sorcières avec un S qui paraît chez Delcourt. Écrit et dessiné par Daisuke Igarashi, Sorcières dans sa carrière a précédé son chef-d'œuvre Les Enfants de la Mer. Et on y retrouve là son goût pour l'étrange et le mystère qui se cache dans les recoins de notre monde. En deux histoires dans cet album, on est transporté à Istanbul, ville-monde, où, dit-il, chacun a apporté ses dieux, et dans la forêt amazonienne convoitée de toutes parts sur les traces d'une jeune chamane au destin tragique. Déjà paru chez Casterman en 2006 et 2007, Sorcières était épuisée depuis longtemps. Delcourt permet donc à une nouvelle génération de lecteurs de découvrir le trait vibrant d'Igarashi. On commence avec un avis rapide, Fausto Fasulo.
Eh bien, je suis ravi, et je pense que beaucoup de lectrices et lecteurs vont l'être aussi, de redécouvrir l'œuvre de Daisuke Igarashi, qui est un mangaka capital. Par ailleurs, les deux mangaka qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette émission sont très très importants dans l'histoire de la bande dessinée mondiale, et c'est vraiment une très belle opportunité qu'on a aujourd'hui de les redécouvrir, alors qu'ils ont quand même, ils peinent un petit peu à décoller sur le marché français, donc j'espère que les lecteurs suivront.
Pauline Croquet.
Oui, c'est magnifique. On connaît souvent les Enfants de la Mer, donc son chef-d'œuvre et son grand œuvre, mais un peu moins ses autres ouvrages, et Sorcières, c'est vraiment l'occasion de se plonger dans ce qui va préfigurer son travail sur les Enfants de la Mer, et je refeuillette encore ce tome 1 et les planches sont magnifiques. On a un grand écart comme ça entre des planches fiévreuses, hallucinées, comme ça avec des motifs, avec du surnaturel et aussi des ambiances très travaillées. Donc vous parliez d'Istanbul, on est immergé dans des ambiances, dans des saveurs, dans des sensations. Il y a aussi tout son travail sur les animaux, il a un côté quasi naturaliste. Donc tout ça c'est magnifique, cette oscillation entre les deux, et il suffit juste de feuilleter comme ça, au débeauté l'ouvrage, pour comprendre qu'on va être plongé dans un vrai travail artistique.
Alors Fausto Fasulo, en quoi ce travail d'Igarashi est capital pour vous ?
Il est capital parce que c'est quelqu'un qui a une position un peu à part en fait dans l'industrie du manga. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un dessin. Je dirais pas particulier, mais singulier, c'est-à-dire qui n'obéit pas, en tout cas, à tous les aspects, on va dire, à tous les canons esthétiques un petit peu habituels et mainstream du manga. C'est quelqu'un effectivement qui a une forme de vibration dans son dessin, avec un aspect très 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 organique. Qui dessine des planches parfois comme ça, des espèces de visions cosmiques, qui réfléchit avant tout à la puissance picturale. C'est un véritable artiste. qui a eu du mal à se couler justement dans le moule, je pense, de l'industrie, qui a pu profiter à un moment d'un appel d'air au milieu des années 90, en fait, au Japon, où les revues de prépublication dans lesquelles étaient justement montrés ses travaux lui permettaient de faire un petit peu ce qu'il voulait. Je pense que s'il était arrivé un petit peu plus tard, il aurait peut-être pas pu s'épanouir de la même façon. Donc, lire un livre de Daisuke Igarashi, c'est vraiment lire une œuvre d'un artiste qui a une vision puissante, fiévreuse et assez unique. D'un point de vue narratif, c'est parfois un peu compliqué, un peu opaque peut-être. Je pense que même lui, parfois, c'est pas trop où il veut aller. Ce que j'avais lu concernant Sorcière, c'est que à l'origine, il avait épousé cette espèce de dimension internationale dans son scénario afin de pouvoir voyager dans le monde entier et faire un petit peu des recherches. Or, il est resté planté au Japon et il a fait des recherches très théoriques à distance, donc il était un petit peu déçu, mais il aurait aimé voyager à Istanbul, il aurait aimé aller au Brésil, tout ça, etc. Il n'en est rien. Néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui, avec la simple force de son imagination, arrive à nous faire croire qu'il a été sur les lieux, qu'il retranscrit, qu'il dessine.
Oui, en effet, on est à Istanbul, ce que vous disiez, on a les saveurs, on a les odeurs, ce qu'on n'attend pas forcément dans un manga, par exemple.
Oui, on a tout ce motif, on a aussi ce travail de la nature. Alors, Daisuke Igarashi, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, il ne vit plus à Tokyo, il me semble, où il y a passé très peu de temps. C'est quelqu'un qui a même habité dans la campagne reculée du nord du Japon, il en a tiré une expérience en manga qui est Petite Forêt, qui est assez particulier dans son travail. Et en fait, tout ça aussi, on le retrouve. Par exemple, le Sorcière, ça s'ouvre, on est vraiment dans la campagne, dans une tribu, on suit une petite jeune fille comme ça, qu'on envoie à la ville et qui un peu se retrouve submergée par Istanbul, par tout ce que Istanbul a à offrir, tous ses mystères, le côté un peu perdu. Et ça, on y retrouve un petit peu sa sensation à lui, en fait, de personne qui se retrouve, qui est plus à l'aise auprès d'un arbre qu'auprès des gens, en fait, parfois, mais qui, néanmoins, a cette capacité à les capter aussi l'essence des personnages. C'est quelqu'un qu'on révère assez peu finalement pour sa capacité à dessiner les traits des caractéristiques des personnages. On parle souvent des animaux, des décors, de la nature. Mais moi, je trouve qu'il a une façon de travailler les regards, la puissance des regards, qui est à voir aussi avec ses planches un peu plus cosmiques, un peu plus surnaturelles, qui est très intéressante, et notamment ses traits. Il y a quand même des personnages comme ça un peu burinés, très intéressantes, ces chamans, c'est les jeunes filles aussi comme ça, tout ce folklore est assez beau, donc ça en fait quand même une œuvre relativement complète, même si effectivement il faut admettre qu'on n'aura pas la réponse à toutes nos questions. D'ailleurs, il l'assume assez, je pense que lui-même parfois se perd et ne cherche pas spécialement à revenir sur la voie de sa narration.
Mmh. Alors qu'est-ce qui fait de ce mythe des sorcières, ça a été très très à la mode, les sorcières, qu'est-ce qui fait de ça, Christophe Assou?
Il fait une sorte de cartographie en fait de la sorcellerie, non pas à travers les âges, quoique à travers le monde. On a deux histoires, enfin on a une toute petite, on a un tout petit épilogue à la fin, une troisième histoire courte. Il y a effectivement la première qu'on a évoquée qui se passe à Istanbul. Moi j'aime beaucoup la seconde, Kwaru, qui se passe dans la forêt amazonienne et qui en fait lui est venu d'une réminiscence d'un documentaire qu'il avait vu à la télé japonaise sur les fermes d'élevage intensif et la déforestation. Et donc il avait un souvenir comme ça un petit peu enfoui de ces images traumatiques, et il en a tissé un récit qui est encore aujourd'hui parfaitement contemporain et qui parle effectivement du massacre de tribus autochtones et de la déforestation massive dans cette partie-là du monde, avec une conclusion qui confine littéralement au manga d'horreur. Donc je vais pas spoiler pour nos auditrices et auditeurs, mais il y a toujours cette espèce chez lui en fait de vision à la fois philosophique, cosmique, cette espèce d'appétence pour des mythologies qui l'effleurent. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, il parle de chamanisme, mais en même temps, on n'a pas affaire à un cours magistral sur la question. Mais on n'en a pas besoin, en fait. À travers simplement le regard d'un personnage, à travers un insert sur la nature, le bec d'un oiseau ou le museau d'un animal, en fait, il arrive à nous raconter quelque chose. Il arrive, en fait, à construire son univers, un univers, et à nous amener à un point de réflexion qui est particulièrement choquant, en tout cas en ce qui concerne cette histoire.
Et oui, c'est d'autant plus intéressant ce thème de la sorcière, c'est que lui-même, ce sont des personnages assez captivants, fascinants, mystérieux, et lui-même, en fait, dans ses planches, il travaille comme ça, il y a un motif avec une aile de papillon qui semble signifier un œil humain, on a ce genre d'image, et en fait, on a des planches absolument captivantes, hypnotisantes, qui sont proches de la sorcellerie, de la la magie quelque part. Donc ça se répond très bien finalement le thème. Et il n'a pas besoin effectivement d'aller faire des recherches ethnologiques, ethnographiques très poussées. C'est en allant capter un motif, en allant capter une légende, en allant chercher ce qu'il y a d'essentiel dans la nature, qu'il arrive comme ça à travailler ces univers. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui est un orfèvre de l'ambiance, de la sensation. On lit son travail et on a vraiment, on est plongé, même si on est perdu, on arrive à ressentir des choses.
Pourquoi vous disiez qu'il aurait eu du mal aujourd'hui, voilà, à produire ce travail-là?
Oh, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'industrie du manga est peut-être un petit peu plus, se repose un peu plus sur ses acquis et ses lauriers et a probablement moins envie de prendre de risques. Alors, il y a toujours des artistes passionnants qui émergent, évidemment, mais pour des profils comme le sien, qui conviennent assez peu au rythme industriel, en fait, des publications au Japon, avec des histoires qui, sont difficilement, en fait, déclinables sur des volumes et des volumes, enfin, qui n'ont pas cette espèce d'esprit ultra sériel, en fait, qu'a la production aujourd'hui. Je pense que, oui, ça aurait été difficile. Ça veut pas, il pourrait être publié, je pense, mais il n'est pas certain qu'il ait le même succès, enfin qu'il ait le même succès qu'il ait pu avoir dans les années 90. Ouais.
Mm-hmm. Pauline Croquet.
Et puis on voit aussi que ces histoires n'ont pas la même taille. On a des paginations très différentes d'une histoire et de l'autre. La dernière, elle fait quelques pages. La première, elle s'étend énormément. Donc il y a vraiment cet aspect effectivement plus mosaïque que sériel, plus dans l'ordre de la vision. Et enfin, moi, je l'imagine bien dans son atelier en train de faire ses balades dans la forêt, venir et avoir du mal. L'industrie du manga, c'est aussi une collaboration avec des éditeurs. Et j'ai du mal à croire, même si c'est quelqu'un qui, je pense, s'adapte volontiers à certaines contraintes ou va s'insérer comme ça dans des interstices et des possibilités qu'on lui offre. Néanmoins, je pense pas que si on commence à lui expliquer ce qu'il doit faire, je crois qu'il travaille tout seul d'ailleurs. Hein, il refuse
toute assistance. Oui, il travaille tout seul, ouais.
Je pense qu'il a besoin de sa tranquillité. Il n'empêche que, par exemple, donc pour faire suite, Les Enfants de la Mer, on est sur un petit chef-d'œuvre assez beau qui va influencer beaucoup de choses, qui est adapté en film d'animation. Donc, pour autant, il sait raisonner avec son lectorat, il sait raisonner avec un public. Il n'est pas tout seul dans son coin, mais en attendant, il a quand même une certaine liberté formelle et d'exercice.
Il est très respecté par ses pairs au Japon. Hein. Donc, il a peut-être pas forcément le lectorat à l'international qu'il mériterait, mais c'est vrai que quand on interroge d'autres mangaka au Japon, tous donnent la même réponse concernant la qualité de son dessin. Hein. Il y a même certains mangaka qui le tiennent comme l'un des meilleurs dessinateurs à l'heure actuelle en activité.
Donc c'était Sorcière de Daisuke Igarashi, sorti chez Delcourt. Et on enchaîne avec le nouvel album de Fumi Yoshinaga, une des mangaka les plus reconnues du moment, tant par les lecteurs que les critiques. On lui doit notamment la série culinaire Ege, What Did You Eat Yesterday, qui dépasse à ce jour les 10 millions de ventes au Japon. Ce nouvel album, intitulé Tamaki et Aman, lui propose 5 histoires qui se déroulent donc au Japon à différentes époques. Quant aux personnages principaux, ils portent toujours les mêmes prénoms, Tamaki et Aman. Ces deux-là sont parfois amis, parfois amants, parfois hommes, parfois femmes, parfois enfants, parfois voisins, mais ils sont toujours liés par un ou plusieurs grands drames de la vie. On commence par un avis rapide, Pauline Croquet.
J'ai trouvé que ce travail était très délicat. Fumi Yoshinaga, c'est une grande mangaka, elle est très intéressante parce qu'à la fois, elle embrasse tout le côté, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mangas auto-publiés en amateur, on appelle ça du doujinshi, donc elle s'est beaucoup exercée à ce qu'on appelle au registre Boys Love, ou yaoi, donc ces histoires, ces homo-romances ou ces récits homo-érotiques mettant en scène des hommes et qui sont souvent dessinés par des femmes pour des femmes. Elle assume totalement cet aspect de son travail, elle adore, elle ferait presque que ça. Et à côté, elle a un travail plus conventionnel, plus grand public, où, à mon sens, elle se sert de toute son expérience et de toute sa liberté à la fois graphique, thématique. C'est une mangaka omnithématique. Elle s'essaye à plein de choses, à plein de registres historiques parce que c'est une férue d'histoire. Et on retrouve tout ça finalement dans Tamaki et Aman. C'est-à-dire, on traverse différentes époques, on a différentes ambiances et puis aussi son expérience dans le boys love et le yaoi où parfois on a soit des rapports sentimentaux très poussés ou des rapports érotiques assez crus. Et en fait, lui permet de faire quelque chose qui est sentimental, de travailler le relationnel et aussi, c'est assez pudique, hein, Tamaki Aman, il n'y a pas de problème, mais ça ne confond pas la pudeur et le tabou. C'est-à-dire que vraiment, on parle des relations d'affection, des relations d'amour, des relations aussi du lien à la mort aussi, parce qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des histoires très tristes et des ruptures finalement qui sont données par, enfin voilà, des ruptures de la vie. Mais tout ça donne un travail absolument délicat et j'ai trouvé ça très astucieux en fait d'avoir cette récurrence de prénoms, voire même de traits de visage. C'est-à-dire que Tamaki et Aman, dans le temps, on les reconnaît à travers quelques traits de visage, mais sinon, ils n'ont rien à voir d'une histoire à une autre. Et donc, ça tisse un grand récit, finalement, de la vie et du relationnel qui est assez beau.
Fausto Fasolo.
Moi, je trouve le recueil absolument superbe, d'une tristesse échevelée. Hein, c'est quand même, c'est quand même un manga à chialer, hein, je veux dire, très clairement.
Vous avez pleuré.
J'ai pas pleuré, mais j'ai été très ému. Et en plus, effectivement, c'est une anthologie qui, pour le coup, supporte assez mal le picorage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment lire de manière chronologique les récits. Alors, au-delà du fait, comme tu disais, Pauline, qu'il y a ce fil rouge avec les deux prénoms, Tamaki et Amane, pour vraiment embrasser pleinement la vision de l'autrice, je pense qu'il faut avoir lu tout le corpus de récits qu'elle nous propose. Et ça marche mieux même d'un point de vue émotionnel. Et curieusement, je trouve que ça démarre pas hyper bien. Moi, le premier récit, si je peux me permettre de rentrer un peu dans le vif du sujet,
oui,
je trouve que le premier récit, effectivement, est pas forcément celui qui m'a le plus emballé. Très rapidement, en fait, c'est une famille japonaise, tout ce qu'il y a de plus normal, je mets des guillemets, dont la mère surprend sa fille en train d'embrasser une autre de ses camarades. Et donc à partir de cet instant un peu traumatisant pour la mère, on va en apprendre plus sur les parents, sur leur rencontre et aussi sur une histoire d'amour contrariée que le père a eue avec un de ses camarades d'école. Et je trouvais ça assez convenu, cette espèce d'histoire en fait de personnes qui se sont casées et qui ont des regrets et qui se trimballent en fait, voilà, des espèces de micro-traumatismes de leur adolescence et même de leur passage à l'âge adulte. Mais ensuite, je trouve que ça décolle de manière assez fulgurante quand elle colle et touche au mélodrame, notamment avec l'autre récit qui se passe pendant l'époque Meiji. Je ne vais pas tout raconter.
Non, mais on peut quand même expliquer effectivement les différentes époques qu'elle aborde.
Mais voilà, oui, il y a plusieurs époques. Alors, il y a effectivement le présent, l'époque Meiji, les années 70, l'immédiate après-guerre, et puis l'époque Edo. Comme tu le disais aussi, Pauline, c'est vrai que c'est une férue d'histoire, une férue d'histoire française notamment. On aurait même pu s'amuser à avoir une histoire qui se passe à l'étranger, mais bon, là, elle aurait un peu trahi le concept des prénoms. Et c'est vrai que l'aspect historique n'est pas forcément l'aspect le plus prégnant de chacun des récits, mais il nous permet à chaque fois de comprendre aussi un petit peu plus la psychologie des personnages et tout simplement le poids de la société, de l'époque qui repose sur leurs épaules.
Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, elle pose un cadre avec des mœurs. Et en fait, souvent, ce qui se retrouve dans chaque histoire, c'est que la relation naturelle ou sentimentale entre les deux personnages est contrariée par les mœurs ou le cadre de l'époque. Donc effectivement, il va y avoir des couples qui n'ont pas pu se faire, des amitiés qui sont séparées. Donc sous l'ère Meiji, c'est deux jeunes femmes qui sont amies, elles sont séparées par la vie et notamment par le mariage de chacune. Donc elles sont tenues éloignées. Donc il y a tout ça aussi. Et en fait, c'est pas du formalisme historique, mais c'est du cadre d'ambiance qui nous permet de comprendre que parfois, une relation quelque part nous échappe, en fait la vie nous échappe par le cadre et par la société, et ça c'est assez bien joué. C'est pas du tout complètement présent ni très lourd, c'est ce qu'on comprend finalement dans cette mosaïque dans tout ce qui a été tissé par Fumi Yoshinaga, et c'est assez chouette. Alors moi, contrairement à Fausto, je trouve que l'entrée par le monde actuel est intéressante. Effectivement, c'est peut-être pas l'histoire la plus originale, mais on se dit justement, c'est bon, ok, c'est assez formel, c'est assez simple comme récit, mais le fait d'avoir toutes les successions d'autres récits, on comprend mieux aussi pourquoi à l'heure actuelle. Et en fait, on se dit, même à l'époque actuelle, il est encore compliqué de tisser des relations avec qui on veut, d'avoir du naturel, d'avoir de l'allant, juste de laisser transparaître ses sentiments, c'est encore compliqué. Et elle le montre au regard de toutes les époques et de toutes les situations possibles. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin. C'est vrai qu'en entrant, on se dit, bon, c'est pas la meilleure des histoires, mais finalement, d'être rentré par là, ça nous permet de voir tout l'intérêt d'en arriver aujourd'hui et de rentrer par cette histoire.
Non, pardon, désolé.
Allez-y. Thérésie.
C'est vrai qu'on la réévalue à l'aune des autres histoires qu'on a pu lire juste après, la première histoire.
Mais alors justement, cette utilisation comme ça des prénoms Tamaki et Amané, du coup je vais le dire proprement, ça pourrait paraître artificiel, ça pourrait être un truc.
Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'au départ, quand on lit un petit peu le pitch, pour employer un terme à la mode depuis au moins 20 ans, c'est vrai qu'il y a un côté un peu lelouchien. Moi, j'avais un peu peur du côté lelouchien, voilà, à travers les âges, à travers les époques, l'amour,
la belle histoire,
etc. Ouais, voilà, donc je me suis dit, au secours. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'elle est infiniment plus douée que Claude Lelouch, pardon Claude. Et puis surtout, oui, elle arrive, comme tu le disais, Pauline, à travers un... en fait, effectivement, ça pourrait paraître comme étant un gimmick, mais en fait, c'est infiniment plus que ça. C'est infiniment plus que ça. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que elle n'enferme pas les prénoms dans des sexes bien précis.
Oui, dans des genres, ouais, tout à fait.
Exactement, ouais. Elle s'en fiche. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que elle ne porte absolument aucun jugement sur ses personnages. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle prend de la hauteur, elle les juge. Elle est un simple témoin de leur drame. C'est vrai qu'au-delà de l'amour, moi, je trouve que c'est un manga sur le deuil, hein, parce que tous les personnages, en fait, de chacune des époques et de chacun des récits ont perdu quelque chose, que ce soit un membre de leur famille, l'amour, leurs idéaux.
Oui.
Et pour moi, le vrai intérêt de ce manga-là, enfin, le vrai intérêt, peut-être que l'une de ses thématiques principales, c'est, et une des questions qu'il soulève, c'est comment surmonter justement un deuil.
Et c'est une mangaka intéressante parce que on n'a pas évoqué une de ses grandes séries qui est Le Pavillon des Hommes, qui est une uchronie assez intéressante où elle reprend l'époque du shogunat de Tokugawa et elle le, en fait, elle
alors
le prend
ça veut
pas...
dire quoi?
C'est une époque féodale en fait, avec un empereur, une cour fermée, avec un gynécée, donc un harem féminin. Et elle le détricote en renversant la vapeur et en partant du principe que le shogun est une femme, donc c'est une impératrice. Et elle a enfermé. On est dans une époque où les hommes, en fait, se font de plus en plus rares. Il y a une disparition du genre masculin. Et donc, l'impératrice a une cour d'hommes fermée, un harem. Et donc, on suit cette série. C'est une série très intelligente, très intéressante.
Son chef-d'œuvre.
Qui va sur le long cours. Donc, elle a un sens de l'ellipse qui est incroyable et qui lui sert forcément dans Tamaki Amané.
Parce que là, c'est très ramassé, hein.
C'est très ramassé. Et à la fois, elle peut faire défiler des années en une page. Et à côté de ça, s'appesantir sur un instant du quotidien. C'est ça ce qui est intéressant chez elle. C'est que, on a parlé de What Did You Eat Yesterday. C'est vraiment une histoire romance culinaire, de vie quotidienne, très légère. Et donc, c'est vraiment un quotidien dans un couple gay masculin. Et on est sur quelque chose de très léger, les petits riens, les trois fois rien. Le quotidien. Et à côté de ça, elle peut nous raconter la grande histoire. Et Tamaki Amané, c'est un peu cette fusion-là où elle est capable d'osciller entre des grands moments, des grandes époques, ou alors faire tenir, je sais pas, dans une course à pied, faire tenir un moment hyper important. Et je trouve qu'elle est, pour ça, elle est sensationnelle. Et ça se retrouve. Et aussi dans son dessin, là, c'est quelqu'un qui, en fait, s'est essayé à plein de choses. On sent qu'elle se marre dans le manga. Elle adore dessiner, elle ne s'interdit rien. Et en fait, ça se retrouve. C'est-à-dire que, elle teste, on le sent, et en même temps c'est très calculé. Je sens que elle est capable de renoncer à des choses parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas quelqu'un qui s'entête, mais en même temps qui a l'air de le faire avec beaucoup d'aisance et beaucoup de naturel.
Sur son dessin, Fausto Fassolo.
Moi, je la trouve plutôt sur la réserve comparé à ce qu'elle a accompli sur le Pavillon des Hommes, qui est vraiment une série que je recommande très chaudement, une uchronie médiévale absolument somptueuse. Alors, faut avoir un petit peu plus de temps parce qu'effectivement, c'est une vraie série longue. Là, elle est plus, on va dire, sur la fonctionnalité. C'est avant tout un manga qui s'intéresse aux personnages. Donc, il y a toujours ce talent dans le découpage et sa manière de cadrer un personnage légèrement de profil ou de trois quarts afin de dévoiler une partie de ses émotions. Donc, elle a ce talent-là. Mais le dessin est assez fonctionnel, je trouve, tout en étant effectivement très bien exécuté parce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a quand même acquis une sacrée expérience et qui est capable, ça le montre, de dessiner à peu près toutes les époques.
Vous disiez, Pauline Croquet, une phrase que j'ai trouvée assez jolie et qu'elle ne confondait pas pudeur et tabou.
Oui, parce qu'en fait, Tamaki Amané, c'est très pudique. C'est quand même aussi comment on parlait de deuil, mais c'est comment aussi on renonce à une relation, à des sentiments parfois, ou comment on la retrouve des années après. Ça fait état des sentiments. On a vraiment des personnages qui s'avouent leurs sentiments, même un peu trop tard, c'est pas grave. Pour autant, voilà, ce n'est pas cru ni rien, tout le monde va s'y retrouver. Dans le manga, évoquer les sentiments, on a toujours l'impression que le manga, c'est un art du sentiment avec des expressions très exagérées et tout ça. Beaucoup de gens qui pleurent, y compris dans des mangas très virils. Mais parfois, quand même, évoquer le sentiment le plus simple et tout ça n'est pas toujours évident. Et je trouve qu'elle, elle le fait à merveille. C'est-à-dire sans forcément s'apesantir ou montrer des corps qui s'enlacent et qui s'embrassent. Elle le fait pas toujours. Dans Tamaki Amane, il n'y a pas forcément ça. Mais il y a quand même une évocation assez crue de ce qu'est le sentiment. Et je trouve ça assez chouette.
Fausto Fasolo.
Oui, oui, c'est ça. Puis elle est capable de raconter aussi bien les sentiments entre deux soldats dans l'immédiate après-guerre que les relations compliquées dans un couple aujourd'hui, qu'une jeune femme dans les années 70 atteinte d'une maladie et qui va... Très belle histoire d'ailleurs, qui va à peu près au milieu du recueil.
C'est celle-là qui vous a fait presque pleurer,
bah,
je suis sûr.
Ouais, quand même. Ouais, j'ai trouvé l'histoire assez forte. Et pareil aussi, avec un glissement progressif vers la gravité. Sans trop d'effet, en fait. Et il suffit d'une case avec une ligne de dialogue pour qu'elle puisse faire remonter en nous des sentiments extrêmement profonds. Et c'est vraiment tout le talent de Fumi Yoshinaga. Ouais.
Elle a un côté comme ça, très mûr, finalement, presque... Elle est jeune, quand même. C'est une jeune femme, non?
Oui,
elle...
71
ans. Ah non, pas du tout. Ah, oui.
Elle est plutôt jeune, quand même. Non, non, elle est encore jeune.
Plutôt jeune, mais aguerrie, en tout cas, voilà. Sur le manga. Et puis, oui. C'est quelqu'un qui a... Enfin, encore une fois, on va revenir sur sa carrière de mangaka auto-édité, là, du doujinshi. C'est des cercles de manga où on dessine énormément, on
elle
confronte.
Respire le manga, littéralement. Voilà, c'est quelqu'un qui vit pour ça, en fait, pour le dessin. Ouais.
Donc, c'est quelqu'un qui est très érudite, en fait, en termes de technique de manga, de technique de narration, et pas forcément technique apprise, technique sur le tas. J'ai envie de raconter ça, j'ai envie de parodier quelque chose, j'ai envie de mettre en scène des couples, quels qu'ils soient, et elle se l'autorise, et du coup, ça lui donne beaucoup de bagages.
Merci Tamaki et Amane de Fumi, je vais y arriver, Yoshinaga, pardon, c'est paru chez Soleil. Merci beaucoup Pauline Croquet, Fausto Fasolo, d'être venu aujourd'hui dans les Midis de Culture. Évidemment, toutes les références, les infos sur ces albums dont nous avons parlé aujourd'hui seront sur la page des Midis de Culture.